Voici Tomate, Coccinelle est absente. Tomate, c'est Monsieur Lacarrière. Ludivine n'a pas pu venir, malheureusement.
Et je le regrette. Eh
ben, moi aussi. Pierre Lacarrière, votre spécialité, c'est le potager à l'ancienne.
L'ancienne, oui. Disons que le potager se rapproche des maisons. Si tant est qu'autrefois, on peut penser que le potager était caché au fond de la propriété ou du jardin. Maintenant, le potager s'inscrit, trouve sa place dans sa place décorative dans le jardin.
C'est parce que les terrains rétrécissent ?
Écoutez, non, je pense pas. C'est parce que les gens peut-être redécouvrent un art de vivre, s'occupent de leur jardin autrement, et le potager devient un objet de décoration.
Et vous travaillez avec Ludivine, et ça c'est assez rare, une femme dans le milieu des maraîchers.
Ça, vous avez parfaitement raison. On peut dire que la population est très très majoritairement masculine.
Sinon macho ?
Je vous laisse le soin de... je souhaitais travailler effectivement avec, avec une femme qui apporte bien entendu beaucoup de douceur et des qualités incontestables. Je dois vous avouer d'ailleurs que je l'appelle mon chef. Mmh. Et elle était maraîchère pendant une dizaine d'années. Donc, si vous voulez, elle connaît très bien son sujet.
Et vous, vous étiez jagueur, donc vous connaissez bien les armes.
Oui, je connais un petit peu les armes.
Tomate et Coccinelle, c'est une société qui propose, en fait, aux gens qui le désirent, de créer un potager sur mesure. Sur mesure, ça veut dire quoi ? Suivant leur désir, suivant leur place, suivant leurs possibilités, suivant leur argent ?
Alors, oui, Tomate et Coccinelle est un prestataire de service qui, effectivement, propose d'installer, de créer, de livrer clé en main un potager décoratif, ludique, et éducatif pour les enfants. Nous leur proposons de créer des carrés, qui sont rarement des carrés d'ailleurs, sont souvent des parallélépipèdes rectangles, entourés d'une petite clôture en piquet de châtaignier, avec un petit portillon en bois, avec un petit paillage au sol, ce qui permet à la maîtresse de maison de fouler, de pénétrer à l'intérieur de son potager sans se salir les souliers. Enfin, on apporte des éléments de décoration pour rendre cet espace vivant.
Alors, il faut quand même avoir un espace. On ne peut pas faire un potager sur une terrasse, par exemple.
Nous y réfléchissons.
Ou sur un balcon.
C'est difficile. C'est nettement plus compliqué.
C'est plus compliqué, mais c'est vrai que vous y réfléchissez ou c'est une question complètement utopique ?
J'étais cet après-midi avec un de mes amis qui est jardinier à Monaco. Et les procédures de travail à Monaco n'ont pas les mêmes contraintes que celles que nous connaissons à la campagne.
Alors, qui vient vous voir, généralement ? Des gens qui en ont assez d'acheter leurs légumes ou leurs fruits au supermarché ?
Pas du tout, ce n'est absolument pas le sujet. Les gens viennent nous voir. Souvent, ce sont des femmes qui ne sont plus dans une activité professionnelle. Souvent, ce sont des familles nombreuses, avec des enfants et des petits-enfants. Je pense que le leitmotiv est certainement lié à l'idée de faire connaître aux enfants ou aux petits-enfants, ou faire découvrir les cycles de la nature et la magie du potager.
Et vous, en ce qui vous concerne, vous essayez de savoir quels sont les modes de consommation de vos clients potentiels et leurs besoins pour les conseiller à faire leur carré de potager.
Alors, je vais répondre à votre question précédente. On ne se substitue pas au marché, à la personne qui va acheter ses légumes. Le potager ne permet pas de subvenir à une famille pour l'ensemble, la grande variété des légumes.
C'est pour l'année.
C'est pour l'année, c'est pas possible.
Vous leur apprenez quoi ? Le respect des saisons, par exemple ?
D'abord, le respect des saisons. On leur apprend. On fait des potagers, donc pas biologiques, mais écologiques. C'est-à-dire que.
Qu'est-ce que c'est la différence ?
Le label, tout à l'heure, un de vos intervenants a fait cette nuance, et je tenais à le dire. C'est très contraignant, le label biologique. Nous avons une démarche écologique, c'est-à-dire que nous ne traitons pas, nous préparons, nous avons au fond une démarche à la médecine chinoise, une démarche curative, on prépare les amendements, la terre, et puis on fait en sorte que ça pousse sans maladie.
Mais vous avez quand même des semences et des plants bio.
Alors, je ne pense pas que les plants soient totalement biologiques. Et pour le moment, nous ne procédons pas sous la forme de semences.
Vous avez des espèces oubliées que vous aimez remettre sur le tapis, si je puis dire?
C'est effectivement une demande récurrente. Et nous sommes en train de nous rapprocher d'un certain nombre de fournisseurs qui proposent une grande variété d'espèces.
Lesquelles, par exemple? Celles qu'on aurait oubliées et qui reviennent sur le marché?
Alors, pour le moment, les légumes que nous proposons à nos clients sont les légumes qu'on trouve sur les étals de marché. Et en parlant avec une personne d'ici, j'ai découvert qu'il existait effectivement un très grand nombre de variétés. Alors, pour savoir si ça peut s'adapter dans nos campagnes, au fond, c'est une démarche empirique que nous découvrirons.
Je voudrais bien qu'on parle aussi de l'arrosage. Vous êtes pour l'arrosage automatique ou pas?
Alors, nous installons un arrosage au goutte à goutte, qui est économique. Alors, c'est une facilité pour nous et qui évite à la personne à qui on propose le potager de sortir à heure fixe pour arroser son potager. Néanmoins, on propose aux gens, écoutez, si vous voulez pas qu'on vous installe l'arrosage au goutte à goutte, vous pouvez le faire vous-même. Jusqu'à présent, la démarche écologique a ses limites.
La dernière question, c'est une question d'esthétique. Vous leur apprenez aussi à faire un beau potager.
Disons que à l'intérieur du potager, nous apportons également une décoration florale qui a un double but, c'est de jouer un rôle de leurre, de piège ou de fixateur pour les auxiliaires et également des plantes mellifères pour les abeilles.
Merci Pierre Lacarrière. La beauté, c'est le domaine de Jean Mus. Vous êtes architecte paysagiste. Alors qu'est-ce que c'est Jean Mus, le secret d'un jardin? C'est quoi? C'est sa douceur? C'est la limite entre le sauvage et le paysage à la Lenôtre? Ce sont les espèces qu'il protège et qu'il fait fructifier? Qu'est-ce que c'est?
Je savais que vous alliez avoir une question difficile. Alors je vais essayer d'y répondre.
Mais j'étais sûr que vous alliez y répondre.
Avec toute l'humilité que l'on doit avoir, et surtout après les bonnes paroles que j'ai entendues de tous les auditeurs, parce que j'ai été attentif. Alors ils ont commencé cette part de rêve. Moi je vais essayer de la continuer. Au travers de votre question qui est, qu'est-ce que la beauté d'un jardin ou qu'est-ce qu'un jardin? C'est cette illusion de bien vivre dans un lieu où on se sent bien et sans le déranger.
Alors, on ne va pas parler des jardins, on va parler des jardins à la Jean Mus. Qu'est-ce que c'est un jardin à Jean Mus?
Oh là 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 là, vous me prêtez beaucoup d'importance et d'abord, je répète, beaucoup d'humilité. C'est d'être l'enfant d'une mer que l'on appelle Méditerranée et d'avoir su la regarder, l'écouter, être curieux et ensuite essayer de l'accompagner, puisque là, je crois que là, une des missions d'un paysagiste, c'est aussi d'accompagner un paysage, et donc de restituer et de savoir conserver un patrimoine et des identités au travers de cette Méditerranée où j'interviens le plus souvent.
Je suis assez béotien. Qu'est-ce que c'est la différence entre un jardin méditerranéen et un jardin provençal?
C'est une histoire de vallée. C'est une histoire de terre, de parfum, d'odeur de la terre. Il y a des nuances. La Méditerranée est riche en nuances. Alors elle a une originalité commune, c'est la mer. Mais ensuite, elle a ses particularités qui lui appartiennent et jamais les problèmes ne sont réellement les mêmes. Si vous vous intéressez au vent, là d'où vient le vent, là où sont les personnages et les usages, vous allez avoir des attitudes différentes chaque fois que vous aurez à installer une propriété.
Un paysagiste, c'est quelqu'un qui bouleverse un espace. Il construit, il terrasse, il maçonne, il plante.
Un paysagiste est à la fois un poète, un architecte, un jardinier, surtout un jardinier, et un botaniste. Alors, c'est pas de moi, c'est notre ami André qui l'a dit il y a bien longtemps. Mais quand vous prenez tous ces arguments et vous essayez de les mettre en musique, puisque là aussi, le paysagiste est un compositeur qui doit essayer de déposer les meilleures notes au bon endroit, et tout le monde l'a dit tout à l'heure, c'est là la difficulté, mais c'est là aussi son plaisir et son talent de ne pas trahir chacune des notes de la musique pour qu'à la fin, il y ait ce qu'il est convenu d'appeler une harmonie. Et cette harmonie, elle est différente à chacune des vallées et chacun des terroirs.
Dans quel endroit du monde avez-vous déposé vos notes de musique ?
Ce sont toujours des notes de musique ou de bonnes paroles que j'ai apprises de mon père ou de tous mes pères. Alors c'est un peu partout, ça c'est un privilège d'aller apporter cette bonne parole. Vous savez, quand vous êtes l'enfant d'un terroir ou d'un territoire, c'est toujours intéressant d'abord d'aller écouter les autres, d'apprendre aussi des autres, et puis d'essayer de partager ce qu'un lieu comme la Côte d'Azur a d'enrichissant, parce que nous avons plus ou moins 150 ou 160 années d'une riche histoire de mélange et de culture et de végétation. Donc, tous les continents y sont passés, mais chaque fois avec des complices, parce que quand je vais trop loin, j'ai besoin de complices, parce que j'en ai réellement besoin.
De qui avez-vous le mieux appris ?
Nous avons tous des références et des maîtres, mais en dehors de mon cher papa, qui fut un jardinier extraordinaire, j'ai eu deux maîtres. J'ai eu la chance de travailler avec Russell Page, et j'ai eu la chance de naître dans une propriété sublissime, dessinée par Ferdinand Bach, qui était la Villa de Croissy à Grasse. Donc c'était deux empreintes et deux lectures des paysages différentes, mais c'était aussi la lecture de l'art de vivre, du quelque part aussi du théâtre, qui fait que dans des lieux magiques comme le nôtre, privilégiés par le climat, on a cette notion de fête et de raffinement qui n'a rien à voir avec le luxe. Le luxe, c'est une autre chose, qui ont porté donc mes idées depuis longtemps.
Est-ce que le problème de l'eau est un problème essentiel pour un architecte paysagiste ?
Mais bien sûr, il doit y penser tous les jours, sans ça il est tout à fait irrespectueux. J'entendais tout à l'heure les propos justes et appréciés sur les notions de pelouse ou de gazon, tout a changé. Regardons-la, l'eau, respectons-la. Elle a, outre son caractère musical qui va satisfaire Louis et dont on ne peut se séparer, vous imaginez ce rythme des saisons, cette eau qui fait vivre. Quand je vais en Espagne, je rencontre des lieux où pendant trois mois et demi, il n'y a pas une goutte d'eau. La nature, elle est là. Elle est heureuse, elle vous apporte quelque chose. Et vous vous dites, mais il n'y a pas eu cette complicité de l'eau. Cette complicité journalière où on a cette assistance, où on apporte aux plantes le goutte à goutte, le pas goutte à goutte, mais tous les jours on leur apporte de l'eau. Et de quel droit ne laisse-t-on pas les plantes respirer tranquillement et avoir une absence d'eau? Elles ont les moyens de se défendre. Donc c'est à nous, sans excès, mais c'est à nous de respecter cette chose-là, parce qu'un jour on va nous reprocher de ne pas avoir su économiser, épargner, utiliser, respecter l'eau. C'est une nécessité.
Fontaine, bassin et cascade, c'est indispensable pour un beau jardin ?
Ce sont des arguments de plaisir. Alors, un de mes amis tout à l'heure a commencé en parlant du paradis terrestre. La translation était assez facile. Le plaisir, l'Éden, le paradis, tout ça, c'est tout à fait inscrit dans nos attitudes. Et l'eau, et les cascades, et les fontaines, dans la notion même des sens, ben c'est une chose tout à fait extraordinaire. Vous pouvez pas vous en passer, c'est évident.
La lumière aussi joue beaucoup.
Alors je vous regarde, et tout en vous regardant, vous voyez, je suis dans le sens du lever du soleil vers la Corse. Alors chaque fois que vous vous levez le matin, c'est un bonheur sans faille de voir que suivant les saisons, toutes ces lumières sont différentes. Et là, nous travaillons avec la lumière. C'est-à-dire que nous offrons à tous nos spectateurs, et nous faisons en sorte que ces spectateurs deviennent acteurs du jardin. et pas seulement spectateur, mais la lumière en fait partie. Parce que dans un jardin, vous travaillez avec les ombres, avec les reflets. Vous avez besoin de ce nuancier qui fait que vous pouvez apprécier toutes ces chromatiques et autres. Donc la lumière est tout à fait capitale.
Même la lumière artificielle ?
Je vis avec la lumière naturelle.
Vous avez travaillé pour le Garden Club de Monaco. Qu'est-ce que vous avez réalisé cette année ?
Non, c'est longtemps par grande amitié et affection, et pour la principauté, et pour tous les gens que je connais ici, où j'essaie de partager quelques émotions avec le Garden. Alors cette année, il y a un peu une notion de folie, de liberté, où tous les gens qui ont quelques idées à prononcer, eh bien, viennent le faire sans que un thème précis soit retenu, mais en tout cas il y a le thème évident, c'est la passion que le garden entretient pour offrir à ses visiteurs.
Merci Jean Mus. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir. Rendez-vous prochain le 27 mai. On va parler de food éthique, autrement dit d'un autre mode d'alimentation, c'est le bio, et en fait ce sera tout ce que vous aurez fait pousser d'ici là dans vos jardins bio. Au revoir.